Bon, il faut qu'on revienne sur les déboires boursiers d'EuroAPI qui perd quand même plus de la moitié de sa valeur depuis le début de l'année. EuroAPI, on a déjà parlé ici hein, sur Boursorama, c'est ce fabricant de principes actifs pharmaceutiques qui a annoncé, parce que tout ça ne vient pas de nulle part, suspendre ses prévisions pour 2024. Et oui, en raison de l'arrêt jusqu'à nouvel ordre de la production d'un site en Italie. EuroAPI, c'est un parcours boursier qui est en train de se transformer en chemin de croix pour les actionnaires du groupe de la filiale de Sanofi. Bonjour Laurent.
Bonjour David.
Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Déjà, je le disais, la dernière déconvenue en date, c'est cet abandon, et ça ne fait pas plaisir évidemment à personne, des objectifs pour 2024.
Non, abandon, vous l'avez dit, des objectifs 2024, des objectifs qui ont été annoncés, David, il y a 2 semaines. Donc là aussi, c'est un petit peu compliqué d'annoncer ça aux actionnaires et des objectifs 2024 qui n'étaient pas terriblement optimiste, on peut le dire, puisque EuroAPI tablait sur une baisse du chiffre d'affaires comprise entre 4 et 7% à base comparable et un recul de la marge core EBITDA. La marge core EBITDA, pour le faire simple, on va dire que c'est la marge d'excédent brut d'exploitation, donc avant amortissement, dépréciation et hors coût de restructuration.
Voilà.
C'est l'indicateur qui est utilisé par EuroAPI. Il s'attendait à 6% à 9% pour 2024,
ouais.
On était à 9,2% en 2023. Donc des perspectives déjà un petit peu compliquées et qui ont là été supprimées pour le coup.
Voilà, et donc la cause de cet abandon des objectifs, c'est l'arrêt, je l'ai dit, de production d'un des sites du groupe en Italie à Brindisi. Il y a déjà eu dans le passé ce genre d'épisode déjà chez
Et
EuroAPI,
oui, il y a
un
déjà eu
sentiment
ce
de déjà vu.
genre. Et oui, il y a déjà eu, vous avez dit, cette déconvenue boursière, elle ne vient pas de nulle part. Il y a déjà eu ce type de problème. Et c'est d'ailleurs un petit peu à ce moment-là que les ennuis ont commencé pour EuroAPI. C'était fin 2022. Pareil, un avertissement lié à l'annonce d'une suspension temporaire. Certaines de ses activités de production de prostaglandine dans un site à Budapest. C'était pour des problèmes de, vous savez, on dit généralement voilà, d'écart par rapport aux bonnes pratiques. C'est-à-dire que les principes actifs n'étaient pas fabriqués comme il l'aurait fallu. Et Brindisi, c'est un petit peu la même chose, un audit interne qui met au jour des problèmes de contrôle qualité, nous dit le groupe, lié à des manquements au niveau local, donc il va investiguer. C'est un site qui produisait à peu près 63 millions d'euros de vente en 2023, 43% qui étaient réalisés pour Sanofi, puisque vous l'avez rappelé, hein, EuroAPI, ça reste une filiale de Sanofi qui en détient encore 30%.
Bon, le titre, on est autour des 3 euros, c'est ça?
On est même moins, là, on est autour de 2,60 euros.
2,60 euros. Bon, c'est là qu'il faut faire absolument, Laurent, un retour en arrière.
Oui.
Moment de l'introduction en bourse, on est en 2022. On est quoi? On est à 12?
Le cours s'introduit à 12 euros. Et vous l'avez dit, David, je pense que c'est un grand moment d'introspection aussi pour tout le monde, y compris nous, les journalistes financiers. Puisque à l'époque, quand EuroAPI s'introduit, eh ben, tout le monde est à peu près unanime pour dire que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Vous l'avez dit, fabricant de principes actifs. Alors on a quoi? On a de la vitamine B12, on a des prostaglandines, on a des hormones, des corticoïdes, des opiacés, des anti-infectieux. Bref, on a quasiment 200 API, APIs, ce qu'on appelle aussi des principes actifs qui sont commercialisés dans à peu près 80 pays. C'est un...
La médecine du quotidien, quoi.
Alors, c'est la... Oui, en tout
oui.
cas, c'est effectivement, mais on va y revenir justement sur ces principes actifs et sur là où il y a peut-être eu justement une incompréhension. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'à l'époque, on est quand même 2022, pas très loin du Covid. On a quand même vu toutes les questions, que ce soit sur les masques ou les médicaments, sur la perte de souveraineté, y compris de souveraineté pharmaceutique. Donc le gouvernement même à l'époque communique sur le fait qu'il va falloir relocaliser. Donc on se dit, tiens, voilà un champion national et même au niveau mondial des principes actifs. On se dit, c'est plutôt une bonne chose. C'est un marché qui est évalué à 70 milliards d'euros et on le présente en croissance de 6 à 7%. Donc on se dit, effectivement, c'est presque présenté comme une valeur entre guillemets de bon père de famille, et on se dit en plus c'est bien parce que on est sur un marché en croissance, on a un acteur intéressant, et finalement il a une rentabilité un peu en deçà de ses concurrents, donc il y a un potentiel de rattrapage qui peut faire que bah, si vous embarquez dans l'aventure,
ouais.
Ça peut être intéressant pour vous en tant qu'investisseur.
Voilà, sauf qu'au final, ce scénario entre guillemets idéal, en tout cas auquel beaucoup ont cru, validé par beaucoup d'analystes de la place.
Compris, oui.
Tout ça ne va pas se dérouler comme prévu.
Bah non, parce que effectivement, dès le fait qu'il y a cette première suspension d'activité sur le site de Budapest, on revient à 2022, donc on a finalement des premiers ajustements de cette fameuse marge de core EBITDA qui était attendue à 14% à l'époque en 2022. Finalement, elle sera ramenée entre 12 et 13%. Elle ressortira à 12,3% en 2021. Et puis, nouvelle alerte en octobre 2023, nouvel avertissement sur les résultats pour l'exercice 2023. Finalement, on nous dit que là, toujours la même marge, hein, c'est toujours de là, cette marge qu'on attendait, David, en progression. inflation. Ben non, finalement, ce sera 9 et 11% contre 12,5 à 13,5%. Et là, on se dit, mais attendez, j'ai loupé un épisode. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, on se rend compte quoi? Le groupe nous explique qu'il y a des baisses de prix. Parce que oui, il y a une concurrence qui est assez féroce sur certains principes actifs. Des baisses de prix, des décalages. Le groupe fait aussi de la sous-traitance, notamment pour certaines biotech qui ont besoin de faire fabriquer leurs traitements, leurs candidats médicaments. C'est un secret pour personne. Les biotech ont eu plus de mal de se financer en 2023, donc elles ont réduit la taille de leurs projets, donc finalement elles font moins de commandes. Donc le groupe a une croissance de cette activité moins forte, jusqu'à ce qu'on arrive, David, à ces fameux résultats 2023. Cette marge, souvenez-vous, dont on attendait qu'elle progresse à long terme, elle ressort. Bah non, 9 et 11, finalement, elle ressort à 9,2%.
La fourchette.
Bas de fourchette, des résultats qui sont marqués par une perte nette. En octobre, il y a eu le départ du directeur général et le groupe a annoncé qu'il allait faire une revue stratégique de ses actifs. Revue qu'on a eue là pour les résultats 2023, qui nous dit quoi? Elle s'appelle Focus 2027. Et là aussi, on apprend des choses intéressantes, David. On apprend que finalement, le groupe va devoir faire des choix dans la production de ses principes actifs. Parce que tous ne sont pas si rentables, si à forte valeur ajoutée que ça. Il y a 13 gammes de produits, marge, nous dit-il, faible ou négative, qui devront être arrêtées. On envisage aussi la fermeture de deux sites, Haverhill au Royaume-Uni et, oh tiens, Brindisi en Italie. Alors, je ne sais pas si effectivement ça va peut-être avancer un petit peu la décision stratégique. Et puis la trésorerie nous dit qu'en 2024, elle veut améliorer sa trésorerie, ses conditions aussi des contrats passés avec Sanofi, qui est à la fois son client et son actionnaire, qui du coup a prolongé son pacte jusque décembre 2025. Nouveau directeur général, on voit que
la maison
reste compliquée. Et ce n'est plus du tout
la même histoire qu'on nous avait vendue en 2022.
Voilà.
On refait l'histoire. Je ne suis pas sûr que ça consomme, malheureusement.
Non, je ne pense pas, malheureusement.
Les investisseurs qui nous regardent. Introduction, je l'ai dit, à 12 euros. C'est monté à
19. 19, oui, on a encore un peu plus de 19.
Voilà, c'est monté à 19. Et puis, c'est redescendu sous 3 euros.
Oui.
Donc voilà, quels enseignements, si on peut tirer un enseignement?
Oui,
on
peut essayer de tirer des enseignements et c'est ça rejoint ce qui se passe sur Atos finalement, dont on avait aussi déjà parlé.
Oui. Atos qui repère 20%.
Qui repère à peu près 20%
parce que
finalement les discussions avec Airbus sur la division de la cybersécurité s'arrêtent.
Sachant que celle avec le milliardaire
Kretinsky pour la gérance,
voilà,
sont arrêtées aussi. Donc on est un peu retour à la case départ sur Atos. Et sur Aurapis, la situation est un peu différente, mais on peut tirer quelques enseignements. D'abord, retour sur l'introduction. Encore une fois, vous êtes investisseur individuel, on vous présente ce dossier, on vous le présente, marché des principes actifs, de la croissance, une ancienne filiale de Sanofi, c'est plutôt pas mal.
Bah oui.
Et puis après, on prend 2 minutes de réflexion. Et finalement, en tant qu'investisseur particulier, qu'est-ce que je connais au marché des principes actifs de médicaments? Pas grand-chose en fait, c'est un marché qui est hyper spécifique, c'est très B2B. Vous ne connaissez pas spontanément l'état de la concurrence, vous vous rendez compte qu'en fait c'est un marché qui, sur les traitements, vous l'avez dit, vous parlez de médecine du quotidien, sur certains traitements qui sont des poudres, finalement de la chimie, un petit peu des poudres, voilà, sont pas à si forte valeur ajoutée, sur laquelle il y a une concurrence, notamment des acteurs chinois et indiens, qui est extrêmement forte.
Qui plombent les marges, donc.
Qui peuvent plomber les marges. Vous vous rendez compte aussi que le groupe, par exemple, ses concurrents directs, vous avez Lonza, qui est un groupe suisse, qui a une rentabilité bien meilleure. Lonza, qui lui-même est affecté par le ralentissement du marché, il a également fait part de réduction d'objectifs de rentabilité. Donc vous dites, bon, et on peut même se demander, quand on est investisseur particulier, pourquoi Sanofi, si c'est une pépite, l'introduit en bourse? À l'époque, la raison invoquée par le groupe, c'était que la rentabilité de cette filiale était un peu inférieure à celle du reste du groupe. Il y avait là un faisceau de choses. Alors, c'est facile de réécrire l'histoire, je le fais avec beaucoup d'humilité, parce qu'encore une fois, même moi à l'époque, je me dis, tiens, ça peut être plutôt une bonne chose, EuroAPI. C'est toujours facile d'arriver après le constat. J'essaie juste, effectivement, d'en tirer quelques enseignements, David, là-dessus. Et après, vous connaissez le proverbe anglo-saxon, c'est « fool me once, shame on me, fool me twice ». Non,
il a fait à l'envers. Shame on you.
Fool me twice, shame on me. Ça veut dire que je pense que dès qu'on avait. Je l'ai loupé.
On est en direct.
Ouais, voilà, c'est ça. Dès qu'on a une première anicroche, une première erreur sur la réalisation du plan stratégique, une deuxième. Je pense qu'il faut commencer à être prudent. On voit qu'il y a des difficultés stratégiques. On termine là-dessus parce que vous me dites, et qu'est-ce qu'on fait maintenant en fait? Eh bien, la même chose que sur Atos. C'est-à-dire que quand on a parlé d'Atos, on dit, il y a des gens qui disent, maintenant c'est vraiment pas cher. Il y a peut-être le coup de rentrer et d'essayer de faire un coup parce que le plus dur est passé ou en tout cas toutes les mauvaises nouvelles sont dans les cours. d'expérience, à part si vous êtes un day trader, un investisseur spéculatif, ou que voilà, vous êtes prêt à prendre votre risque avec des paumes particulières, je trouve ça toujours plus intéressant d'avoir un premier signe que les choses vont dans le bon sens, quitte à louper une partie de la hausse, mais d'être sûr que les choses sont sur de bons rails, plutôt que de tenter le joker et dire « là, je vais vraiment super bien timer, super bien rentrer, c'est au plus bas », et de se prendre une autre déconvenue dans la foulée. Donc, je pense que, et là-dessus, l'exemple d'Atos, on en avait parlé, on a dit « attention, Atos, oui, ça peut remonter, ça peut rebondir, ça peut redescendre, on a la preuve aujourd'hui, donc mieux vaut attendre que lors de sa prochaine communication, ce sera peut-être les semestriels ou autres, on ait les premiers signes d'une amélioration, d'une stabilisation peut-être de la marge, de la croissance, avant de se dire, tiens, pourquoi pas revenir sur EuroAPI.
Allez, décryptage signé, Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci Laurent.
Merci David.